Il est 19h, nous sommes là, je ne sais plus parler. Nous sommes le lundi 16 janvier 2022, on est le 17 en fait. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez, si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr, c'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, des fumeurs de pipe, de la terre, de la jeunesse et des petits soucis d'identité, mais c'est pas grave, on se retrouve juste après le générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère que nous allons passer un bon moment. Je suis en compagnie ce soir de Luc Douin de l'émission Entre les pages, qui va nous faire une nouvelle chronique ce soir. Bonsoir Luc.
Salut Seb.
Ça va bien ?
Ça va très très bien.
Bon, j'en profite pour te souhaiter une bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu depuis, et puis je souhaite également une bonne année à nos chers auditeurs. J'espère qu'ils sont en bonne santé malgré le contexte actuel, et qu'ils en ont profité pour avoir de saines lectures pendant les vacances. Alors je m'excuse un petit peu parce que j'ai eu un petit hiatus, j'ai fait une petite pause pour les fêtes, parce qu'avec l'émission Les Voix du Scénarium, j'ai eu beaucoup de boulot, hein, et puis en dehors de mon boulot de personnel, bien sûr, et ben ça m'a un petit peu mis sur les genoux, mais bon, je suis de retour, tout frais, pour votre plus grand plaisir, enfin j'espère. On va commencer avec quelques news, puisque, alors je sais pas si tu n'es pas vraiment lecteur de manga, hein, Luc.
Pas particulièrement, non. J'attends, en fait, je fréquente cette émission pour que tu me mènes sur la voie du manga.
Eh ben écoute, on va tout faire pour. J'ai appris il y a très peu de temps, c'est fin décembre que c'est sorti, il y a un site et une application qui s'appelle manga.io, qu'on va pouvoir qualifier de Netflix, en fait, du manga. Le concept, ce sont des éditeurs de manga qui vont pouvoir proposer des titres de manière légale sur une plateforme avec abonnement. Donc l'abonnement peut paraître un petit peu cher pour ceux qui veulent le souscrire, mais ça correspond à peu près au coût d'un manga tous les mois pour accéder à une collection beaucoup plus importante. Là où c'est important, c'est que là, il y avait déjà 9 acteurs de l'édition manga qui étaient présents sur cette plateforme. Et là arrivent les éditions Kana, qui est une grosse maison d'édition, qui va injecter aussi de nombreux titres dans le catalogue. J'aurai l'occasion de tester un petit peu plus ça, voir comment ça fonctionne. Et puis, je vous en dirai un petit peu plus, mais c'est vrai qu'il y a... Il y a déjà pas mal de petites choses dessus. On va pouvoir retrouver Assassination Classroom. On va pouvoir retrouver les Gintama. On va pouvoir retrouver Say Hello to Blackjack. Il y a plein de belles choses. Il y a le mari de mon frère qu'on avait chroniqué dans une émission il y a ça un petit moment, qu'on va pouvoir retrouver dessus. Donc, si vous avez envie de consommer du manga de manière inconsidérée, eh ben, on va dire que pour le prix d'un manga, vous avez plein de mangas virtuels à lire. Et en plus, ça prend moins de place sur les étagères. Donc,
et avec les mangas, ça compte. Cet argument devient important.
Ah ouais, ça peut le faire. Il faudra que je prenne le détail, en fait. Là, c'est vraiment un petit effet d'annonce, mais je vais vous faire un vrai test de cette application. Si vous n'avez pas l'abonnement, c'est disponible que sur le site manga.io. Et quand vous êtes abonné, vous pouvez consulter ça directement sur votre téléphone. Donc normalement, c'est fait de façon fluide. pour pouvoir avoir quelque chose de facilement lisible. Donc, essayez.
Oui, c'est toujours compliqué la lecture de BD ou de manga sur un écran, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une vraie progression, une évolution des applications. Ça devient intéressant. Moi, je sais que c'est une des difficultés que j'ai, c'est de lire sur écran. C'est vraiment très, très compliqué. Et surtout, effectivement, de la BD et du manga, ouais.
Ben, ça dépend des façons de faire. Il y a des choses qui sont prévues pour. On a les webtoons coréens qui sont prévus avec un défilement du haut vers le bas, enfin du bas vers le haut, ouais, dans ce sens-là, qui fait que c'est vraiment super agréable. C'est parce que c'est prévu pour. Et il y a des maisons d'édition qui ont fait aussi du case par case dynamique. C'est-à-dire qu'on va, appuyer et la case va bouger, on va suivre l'action avec la case. Mais c'est pas prévu pour tout type de lecture et. Ouais, on va tester ça. Bon, on se retrouve, on en reparlera sans doute dans 15 jours. Si tu es d'accord, Luc, je vais te proposer d'enchaîner avec ta chronique. Non, wow. C'est peut-être trop tôt.
Ah non, bah je suis au taquet, surtout que tu avais des doutes sur mes goûts, mes sensibilités, et tu t'inquiétais même de savoir si un jour les bouquins que tu me proposerais pourraient me séduire.
Parce que pour expliquer, je te coupe vite fait, ouais. J'ai sélectionné des livres que j'ai proposés à Luc. Et il n'y en a aucun où il m'a dit « Non, ça, je ne veux pas faire ». Il accepte tout et oui. Il se challenge là-dessus. Et j'avoue que je trouve ça hyper plaisant.
Donc, aujourd'hui, dans la pile que tu m'avais remise, je pense que le moment où je vais te dire que je conserve, que j'ai l'intention de conserver cette BD est arrivé. Aujourd'hui, c'est d'un monument de la littérature mondiale dont il va être question, le Moby Dick, parce que je pense qu'on doit dire le Moby Dick de Herman Melville, ou plutôt son adaptation par Bill Sienkiewicz en bande dessinée. Je crois qu'il est important de rappeler, parce qu'on parle tous de Moby Dick, et moi je m'autorise à dire le Moby Dick, mais en fait, qui a lu Moby Dick? C'est une question qu'on devrait se poser. Et peut-être qu'il faut passer par une étape de rattrapage et de savoir un peu de quoi on parle.
Parce qu'on a tous entendu un petit peu parler, voilà. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment?
Est-ce qu'on le connaît? Donc, Moby Dick, c'est la traque par le capitaine Ahab d'un célèbre cachalot blanc qui est surnommé Moby Dick. L'histoire se déroule au milieu du 19e siècle. Elle est racontée par Ismaël, un jeune homme qui cherche à s'embarquer pour chasser la baleine. Il trouve une place sur le Pequod grâce à Quick Egg, un ami qu'il s'est fait dans un bar du port, un indien tatoué de partout. Le capitaine du Pequod est le capitaine Ahab, homme invisible, réputé taciturne, réfugié dans sa cabine. Il a perdu une jambe dans un combat qui l'a opposé à Moby Dick. Cette jambe absente a été remplacée par un pilon fait dans un os de baleine. L'équipage du Pequod est composé de marins aux personnalités marquées jusqu'au mousse, un garçon noir du nom de Pip. Ahab n'a qu'une obsession, capturer Moby Dick pour faire payer au cachalot la jambe qu'il a perdue. Le Pequod quitte le port et navigue au travers des océans. À chaque navire croisé, Ahab ne pose qu'une question. Avez-vous vu Moby Dick? Quand un des capitaines lui dit qu'il vient de le croiser et que le cachalot a pulvérisé une de ses baleinières dans laquelle était un de ses fils, Ahab ne lui propose même pas son aide pour le retrouver. Il poursuit sa quête jusqu'au jour où enfin il atteint son but. La chasse est engagée, elle se déroule en 3 actes, en 3 jours, et ça se terminera mal. Difficile de ne pas penser que Stevenson ne s'est pas inspiré du capitaine Ahab pour construire son personnage de Billy Bones dans L'île au trésor. Moby Dick, c'est un roman très étrange dans lequel Herman Melville relate une partie de son expérience de chasseur de baleines. Les images emblématiques du film de John Huston en 1956 sont dans beaucoup de mémoires, tout particulièrement grâce à l'interprétation de Gregory Peck en Capitaine Ahab. Mais le roman est beaucoup plus ambitieux. Il fait quand même plus de 740 pages. De larges passages sont consacrés à l'univers des chasseurs de baleines. On pourrait presque parler d'études sociologiques. Si j'ai fait cette introduction, j'ai rappelé les 740 pages, c'est parce que Sienkiewicz décide d'adapter ce Moby Dick. Et il en fait une BD de seulement 44 pages. Totalement halluciné. Il retient l'essentiel du roman, la chasse à la baleine. Et pour transcrire cet univers, il use de multiples techniques, peinture, dessin, collage. Les couleurs sont sombres, les personnages souvent peu distinguables. Tout est travaillé dans la verticalité pour mieux représenter la puissante profondeurs des océans. Même Moby Dick est plus suggéré que représenté. Le tout fait une BD presque cryptique. Tout est dans ce dessin fantastiquement onirique, et en cela Bill Sienkiewicz et Dan Chichester réussissent à rejoindre l'esprit du roman de Melville, dont l'essence est la métaphysique et la spiritualité. Il nous avait déjà habitués à ce graphisme, Sienkiewicz. On retrouvait ce choc visuel dans Elektra ou bien dans Jimi Hendrix, La légende de Vaudou, Child, la biographie de Jimi Hendrix. Ce qui est étonnant, c'est que Moby Dick est sorti chez Delcourt en janvier 2021, alors que l'édition originale date de 1990. Rien à voir dans cette adaptation avec celle de Chabouté, parue en 2014 chez Vents d'Ouest. Chabouté en fait un roman graphique de 2 volumes totalisant 250 pages, mais je ne sais pas pourquoi. Il me semble que la création, parce qu'on peut parler de création de Bill Sienkiewicz, est bien plus proche du projet d'Herman Melville. En tout cas, les images nous hantent presque. Alors 44 pages pour Moby Dick, était-ce raisonnable ? Étrangement, oui. Sienkiewicz a une capacité étrange à donner une densité fantastique à son trait. Il réussit ce qu'on espère toujours quand on découvre une BD, nous faire regarder le dessin, se laisser pénétrer par lui et non pas courir d'une case à l'autre. Juste pour l'exemple, l'avant-dernière planche qui couvre 2 pages est quasiment noire. Juste un tout petit phylactère en haut à gauche. En bas, sur la page de droite, la silhouette fugace de la queue de la baleine. C'est tout et c'est magistral. Ce Moby Dick, c'est tout ce que j'attends d'une BD, qu'elle me balance tout simplement un uppercut visuel. Et Sienkiewicz, je peux te le dire, Seb, c'est un sacrément bon boxeur. La BD, ça s'appelle Moby Dick et elle est publiée chez Delcourt.
Et effectivement, c'est magnifique, hein. Moi, j'ai été subjugué par la violence graphique et l'ingéniosité graphique de cet ouvrage. C'est hyper impressionnant.
Et moi, j'ai lu Moby Dick. Moi, je l'ai lu il y a très, 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 très longtemps. J'avais été enthousiasmé par le roman. Je l'avais relu une deuxième fois il y a une quinzaine d'années, je crois. Je m'y étais fait suer, je le dis, les descriptions, tout ça de pêcheur, tout ça, ça ne m'avait pas passionné. Sienkiewicz, il va à l'essentiel. C'est-à-dire que on comprend toutes les scènes, même celles qui sont racontées longuement par Melville, simplement avec son dessin. Et c'est un dessin très bizarre, enfin, qui surgit de la page, qui disparaît, qui se superpose. C'est d'une puissance fantastique. Enfin, pour moi, c'est une révélation, oui, tout à fait.
Mmh. Bah écoute, ravi d'avoir réussi à te faire découvrir quelque chose comme ça. On a senti que ça t'a transporté, en tout cas, que ça t'a fait voyager.
Oui, tout à fait.
Eh bien, écoute, on verra ce que ça donne sur les prochains ouvrages que je vais pouvoir te basculer.
Ouais.
Je sais que normalement, c'est le Blue Monday. Alors, c'est censé être la journée la plus déprimante de l'année. Je ne vais pas vous réchauffer le moral avec la chronique qui va suivre. J'avais rencontré Elliot Rimbaud, un jeune homme qui a fait un album qui s'appelle Les Tambours de Srebrenica, qui avait été lauréat du prix Première Bulle en GBD en 2019. Il a eu la gentillesse de m'accorder cette année, lors de l'édition de décembre, une interview qu'on va retrouver juste après la petite pause musicale. En pause musicale, je vais vous laisser avec Grimms et Player of Games. Vous avez Elliot juste après en interview. Et puis on a une autre pause musicale et on se retrouve juste après. Allez, ne nous quittez pas. On est toujours sur le 101.5 de Radio G. Je suis au festival Angers BD en compagnie d'Eliott Rimbaud qui va nous parler des tambours de Srebrenica. Je sais pas,
Srebrenica.
Son album qui a été récompensé par le prix Première Bulle Angers BD en 2019. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis un petit peu ton parcours professionnel, comment tu en es venu à la BD? Est-ce que c'était un souhait dès le départ? Est-ce que ta formation t'a amené vers la BD ou est-ce que c'est un changement de ligne à un moment?
Bah la BD, c'est pour moi, c'est un média de cœur, on va dire. J'ai commencé à dessiner à Angers, du coup, je suis un gars du coin, avec la boîte qui fait bœuf et Tony, Sylvain, toute l'équipe. Je prenais des cours au lycée quand le mercredi, quand j'avais fini mes cours. Et j'ai continué la pratique du dessin pendant mes études. J'ai fait des études à Bordeaux, à l'IEP, à Sciences Po Bordeaux et en journalisme après, toujours à Bordeaux, à l'IJBA. On a fait un projet en fait, pour la faire courte, en 2014 avec ma sœur, de documentaire qui avait été récompensé par un prix avec France Inter et une boîte de prod dont le producteur qui gérait notre projet m'a mis en contact en fait avec Philippe Lebejois, qui est en fait, cette rencontre a été à l'origine et à la naissance du projet des Tambours de Srebrenica. Donc Philippe Lebejois, c'est un mec incroyable qui est un reporter de guerre qui a fait ses armes en tant que reporter pendant la guerre en ex-Yougoslavie, en Bosnie, en Croatie et qui a couvert le conflit de 92 à 95 pour pas mal de médias en télé et en presse écrite français. Et donc on a été présenté. Il m'avait dit qu'il voulait faire une adaptation de ce livre des Tambours de Srebrenica, qui est initialement un roman qu'il a publié en 2003, et il voulait en faire un livre en bande dessinée parce que c'est un sujet qui est peu connu, bizarrement, alors que c'est important dans l'histoire européenne. C'est quand même le plus gros massacre sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il y a peu de gens qui en ont entendu parler, dont moi, parce que quand on a commencé à discuter la guerre en Yougo, j'y connaissais rien, comme tout le monde. C'est une période de l'histoire où tu entends parler de la chute du bloc soviétique et tout, mais de ce qui s'est passé exactement à l'époque, il y a des casques bleus français ou des gens qu'on entendait parler dans cette génération-là par l'actualité, parce qu'il y a eu pas mal de réfugiés bosniaques et tout. Il m'a présenté son projet, l'adaptation de son livre, et on en a discuté quand j'étais encore étudiant, et c'est un projet qui a mis du temps à se développer, parce que c'était notre premier livre à lui comme à moi. Du coup, ouais, c'est un projet qui a pris un peu de temps. On s'est rencontrés pendant que je faisais mes études à l'IEP. Il m'a parlé de sa volonté d'adapter donc son roman et qu'il cherchait un dessinateur. Il m'a parlé de toute cette période-là, m'expliquait dans les grandes lignes. Moi, j'étais partant parce que c'est, encore une fois, comme je disais, un épisode de l'histoire récente, contemporaine, qu'on connaît peu, et surtout pour les jeunes. Et le média BD est hyper efficace pour ça, pour introduire même des épisodes de l'histoire qu'on connaît peu. Donc on a commencé à bosser ensemble, on a trouvé un éditeur qui a fait faillite, on a changé d'éditeur, ça a été tout un périple pour arriver à faire le bouquin. Et du coup, voilà, on a travaillé ensemble. C'était notre première BD, donc on était tous les deux un petit peu en phase d'apprentissage, on va dire, quoi. Travailler sur un storyboard, comment on compose la narration, comment on la restreint pour la faire tenir dans la bande dessinée. C'est un récit dans le roman qui est assez fragmenté, il y a plein de personnages, donc on a essayé de limiter un petit peu et d'en faire une histoire qui soit musclée, qui soit fluide et qui tienne. Elle est encore très compliquée parce que la guerre en elle-même est compliquée, mais on a travaillé ensemble et moi ça a été un défi graphiquement assez important parce que c'est la première fois que le massacre de Srebrenica était représenté en images. On a des images de la prise de la ville de Srebrenica par les unités de Mladic en 95 qui a été tournée par un journaliste de la télé serbe à l'époque, mais des massacres eux-mêmes on n'en avait pas, donc il a fallu, moi je suis allé sur place pour les commémorations annuelles au moment du 11 juillet pour voir le lieu, le mémorial, les différents endroits où il y a eu des exécutions et voilà, pour travailler un petit peu juste l'atmosphère, les décors et s'imprégner un peu de l'ambiance de la ville de Srebrenica et des alentours et de la Bosnie en général. Et du coup, c'est voilà, BD qui a duré à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Et moi, j'en étais content. C'est une première expérience. Elle est pas parfaite, mais mon intention, c'est de... En fait, j'essaye de trouver... Moi, dans ma formation, je viens plutôt du journalisme. J'essaye de trouver des manières de décliner le journalisme avec la pratique du dessin. Donc, ça passe par faire de l'illustration documentaire, ce que je fais surtout en ce moment. C'est mon activité principale pour des boîtes de prod, du documentaire, du magazine d'enquête pour France 2. Je travaille pour la presse aussi, faire des reportages, des ciné-cours. Pour le moment, c'est un peu l'essentiel de mes projets. Mais voilà, je pense que sincèrement, depuis les années 90, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a eu des précurseurs. On parle de Étienne Davodeau qui est du coin, qui s'intéresse au réel dans la bande dessinée et qui part du principe qu'on peut parler du réel, de la vie des gens et des sujets graves et sérieux par le biais de la bande dessinée et qu'on peut apporter de l'information tout simplement au lecteur par le média de la bande dessinée. Ce qui n'est pas acquis parce que c'est encore une réputation un petit peu de média d'ado, on va dire. Et du coup, voilà, c'est un peu... Je pense qu'il y a à la fois un public qui est prêt à recevoir et à lire des histoires qui sont sérieuses, dures, d'actualité, grâce à la bande dessinée. Et à la fois, il y a pas mal d'auteurs qui s'intéressent de plus en plus au réel et qui sortent de leur atelier, qui partent faire des reportages dessinés. Et il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui avancent en ce moment. Et moi, je travaille beaucoup avec la télé parce qu'il y a pas mal de documentaires et de boîtes de prod qui se rendent compte que plutôt que de faire des reconstitutions un peu cheap en payant des acteurs et en faisant des évocations, ce qu'ils appellent des évocations qui sont toujours un peu cheap et malaisantes, des fois, il vaut mieux contacter un dessinateur qui reconstitue des scènes, à qui il donne des informations, qui décrivent les protagonistes, la situation, le décor, pour pouvoir un peu avoir une patte réaliste, mais en même temps... avoir de l'image à montrer à l'écran, quoi. Donc moi, c'est un peu ma démarche, mêler le journalisme et le dessin. Il y a plein de manières de le décliner. Je pense sincèrement que le média de la bande dessinée, pour moi, est un peu intimidant et un peu complexe économiquement parce que c'est compliqué d'en vivre. Au-delà de ça, je pense que j'y crois fermement que c'est un média qui est pertinent, qui est puissant, qui permet de mettre en avant un principe dans la pratique du métier de journaliste qui est important, qui est celle de la sincérité. Tous les journalistes parlent d'objectivité en permanence alors que c'est une énorme connerie. Tout le monde est situé sociologiquement, socialement, même politiquement. Tout le monde a un regard sur le monde, sur l'actualité politique. Et je pense que c'est ridicule de dire qu'on a un avis objectif sur tout et d'avoir une approche plus humble, un peu autobiographique, de faire du reportage dessiné en disant voilà comment j'ai eu accès à l'information, mon fixeur c'était ça, ma relation au fixeur c'était ça. C'est une BD que Joe Sacco a fait déjà sur GoRHD et qui est absolument fascinante parce que tous les journalistes, il y en a beaucoup qui débarquent dans une zone, un terrain de guerre, et pas forcément, ils connaissent pas à 100%. On n'est pas tous les journalistes sont pas des êtres omnipotents et omniscients, loin de là. Et du coup, de pouvoir donner des clés d'analyse et d'interprétation critique au lecteur en se disant ah bah oui, d'accord, il a eu cette info parce qu'il a parlé à telle personne, voilà. Est lié à lui parce que peut-être qu'il recherche ça ou ça. En fait, ça permet de contextualiser l'accès à l'information et surtout aussi au lecteur de s'identifier aux personnes parce que quand on sort une BD en France, la plupart de ses lecteurs, c'est des Français. Et de se dire, je vais débarquer, sur des BD hypothétiques, mais ce que je ferais jamais, mais si tu vas à Kaboul maintenant, ce que je ferais pas, mais t'es français, il y a plein de clichés, tu connais pas la culture, d'incompris, de malentendus, de quiproquos et de ressorts un peu comiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans l'expérience de voyage, même en tant que journaliste, entre les lignes de chaque article, qui est en fait des rencontres avec des gens, d'une culture et tout. Et je trouve ça toujours intéressant de mettre ça en scène en même temps que de l'actu pure, entre guillemets.
Ok, on a, t'as répondu à beaucoup de questions que j'avais au fur et à mesure. Effectivement, comment tu as travaillé avec Philippe ? Est-ce que tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail sur vos échanges, sur la structure de l'album ? Ou tu me dis ?
Ouais, clairement. Bah, moi, j'ai commencé par lire son livre, déjà. On a pas mal discuté pour qu'il me donne des éléments de contexte, comment lui travaillait. Il m'a fait rencontrer d'autres. On a fait un festival à Bayeux et même bien avant la sortie du livre de journalistes qui travaillaient à l'époque. Qu'est-ce que c'était que commencer ses premiers reportages à Sarajevo en 92-93 et de faire ses armes là-bas. Donc on a pas mal échangé. Moi j'ai repris son texte. En fait, je faisais des propositions qui validaient ou pas. J'ai réécrit les dialogues et la partie du scénario en fait qui devait être plus contenue, plus restreinte, plus synthétique. Fallait qu'on aille à l'os en fait. Moi je lui ai dit, je lui ai fait des propositions qui validaient et après on a fait, je pense, un mode de fonctionnement qui doit être, enfin qui est classique je pense dans la bande dessinée, c'est de travailler sur un storyboard, de le retoucher, de faire des allers-retours et après une fois validé de partir sur la version finale, donc du coup qui était en pur traditionnel, l'encre de Chine, des pages à trois du format raisin, des heures à passer devant sa planche à dessin, des taches d'encre sur les doigts, sur les planches, et des nuits à se coucher plus tard qu'il est raisonnable. Et voilà, j'ai fini la BD en rentrant chez mes parents pour être tranquille. Je me suis fait un atelier et je commençais à 11h et je reprenais pour poser mes planches, organiser la journée. Je commençais à 14h et je bossais jusqu'à 4h du matin. Et pendant 3 mois, j'ai pas pris de week-end et j'ai bourriné pour finir la BD comme ça. Donc voilà, en bon taf d'ermite, comme il se doit, comme pas mal de dessinateurs au final. Et voilà, ça a été un long parcours, mais j'en suis content. J'ai appris pas mal de choses. Je pense que je serais heureux de pouvoir retravailler sur un album. J'ai eu des propositions, mais je suis prudent parce que je sais maintenant le travail que ça représente de bosser sur un album de BD, ce que je savais pas absolument en me lançant dedans. Et je pense que c'est bien d'avoir une part de naïveté quand on commence dans un projet comme ça, parce que sinon je pense on le fait pas. Et je ferai de la BD, mais plus de reportages sur de l'actu ou moi-même. En fait, l'idée, ce serait de pouvoir voyager, de réunir la matière moi-même et de pouvoir alterner entre des phases d'exploration, on s'imbibe, on va sur le terrain, on voyage, on s'émerveille, on se fait plaisir, tu fais le plein un peu d'émotions. Et après des phases où tu retranscris ça par le dessin, et je pense que même sur la justesse du dessin, c'est important d'avoir cette charge émotionnelle et de l'avoir vécu soi-même pour être le plus juste possible et pour avoir du plaisir à dessiner et pour que le dessin sonne juste quoi.
Du coup, tu parlais beaucoup, là on voit d'émotion, tu parlais de fatigue physique tout à l'heure sur le travail. Comment on appréhende justement un album avec un sujet aussi dur, que ce soit physiquement ou moralement ?
Bah, faut pas trop se poser de questions parce que déjà premièrement, j'avais aucune idée du travail réel que ça représentait. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que du coup j'ai dû le faire par la force des choses et je suis content de l'avoir fait. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une réelle question, c'est celle de la légitimité en fait, de savoir qui est-ce que je suis pour parler d'un récit. Quand moi je suis allé en Bosnie, j'ai parlé avec des gens, des familles des victimes qui continuent à enterrer des corps qu'on connaît, qui savent ce que ça représente. Et on se dit, mais moi qui suis angevin à ce moment-là de 26 ans pour commencer à raconter leur guerre, raconter leur peine, alors que je l'ai pas vécu, j'ai aucune idée. Moi, je suis né une semaine avant le début de la guerre en Bosnie. Et ça a été beaucoup de questions. Après, je me dis que dans tous les cas, la BD a le mérite d'exister et que même si ça permet à des Français de réaliser, et ça c'est quelque chose que c'est un retour qui me fait plaisir et qui est important, c'est des fois en dédicace, ça m'est arrivé, et même à Angers là pendant le festival, il y a un casque, un ancien militaire à la retraite qui est venu me voir et qui me disait ouais, j'ai été casque bleu en Bosnie et j'ai des souvenirs et c'est important d'en parler, et ça a ramené des souvenirs et des choses, parce que c'est voilà, c'est déjà une guerre du XXe siècle, en fait, c'est quelque chose dont on parle plus, dont on pense plus, alors que dans l'actualité, c'est pertinent. Le débat politique actuel, on parle de guerre civile, on parle de montée de un peu des sentiments identitaires, du nationalisme et tout, et toute la rhétorique de Milosevic et des discours politiques du début des années 90, c'était ça, quoi. Et espèce de climat de identitaire, poisseux, crasseux, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'histoire. Et moi, j'étais, quand j'ai travaillé dans cette BD, j'ai commencé pour ça, j'étais persuadé que à la base il y avait quand même cet intérêt et cette force qui était de raconter une guerre qui est terrifiante, qui est terrible, mais dont les ressorts et les causes peuvent être reproductible facilement, et on n'est jamais à l'abri de partir dans ces travers-là, et je pense que c'est bien de se souvenir de ce qui s'est passé à Srebrenica et de voilà de pouvoir le transmettre à d'autres générations que celles qui ont vécu à l'époque, quoi.
Ok, pareil, tu as certainement presque déjà répondu avec tout ce que tu nous as dit, mais si tu devais dire à quelqu'un lis ma BD parce qu'elle est vachement bien, comment tu t'y prendrais ?
Bah, je dirais de lire la BD, de commencer par le dossier final, à la limite, parce que ça peut permettre de donner des éléments de contexte sur la guerre. Après, de plonger dans l'enquête. Il y a toute une partie qui a été qui est une partie de fiction avec un enquêteur, Hugo Bédé Carax, qui a été inspiré par un enquêteur français qui a réellement existé. Que Philippe et moi avons rencontré, et il y a toute une partie enquête, voilà, on voulait surtout pas faire un peu une BD historique où on plonge directement dans le massacre, quelque chose qui soit lourd, un peu indigeste, et il y a une partie qui est de l'action, de l'enquête, de l'aventure. Moi, j'ai mis de l'énergie sur le dessin, j'ai essayé de déstructurer à des moments, de fluidifier, ouais, de mettre de l'énergie même dans le découpage. Il y a des scènes d'action, il y a des moments qui sont un peu plus historiques, on va dire. Et ouais, c'est du dessin 3D un petit peu avec du dessin 3D. C'est du dessin en noir et blanc à l'encre de Chine avec l'idée de un peu d'avoir une ambiance et un grain qui pouvait être ressembler à la photographie de guerre des années 90. Et du coup, graphiquement, je pense que pour ceux qui aiment le noir et blanc, il y a de quoi s'éclater. Et c'est un beau bouquin qui fait moins 130 pages, donc ça vaut le coup de l'acheter, ouais, et de le lire.
Un beau bouquin qui a du coup été récompensé par le prix Première Bulle. Ça change quoi d'avoir un prix comme ça ?
Bah, ça me fait plaisir parce que c'est le Festival d'Angers et que je suis angevin, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir voir les gens aussi au moment du festival qui m'ont appris à faire de la BD et à dessiner, juste me féliciter, de me dire bien joué, et de rentrer pour ma première BD un peu dans ce monde, et voilà, le Festival d'Angers, c'est un festival qui est très intime, avec plein de gens tout le monde est hyper bienveillant, tout le monde est gentil, c'est un peu cliché de dire ça, mais ouais, c'est une ambiance, ça donne envie d'y passer du temps, d'y revenir. Et j'étais ému et j'étais content qu'on me donne ce prix. Mais c'est un prix Première Bulle, voilà, qui incite, je pense, qui dit c'est un bon début, et qui en fait c'est une invitation à continuer dans la profession. Et moi je l'ai interprété comme tel, et je pense que je vais retravailler sur des albums et des projets un peu plus tard, et je serais très heureux de pouvoir les signer et les présenter au Festival d'Angers quand je les aurai sortis. Et je remercie le festival, l'accueil qu'on a ici, toute l'équipe qui est hyper sympa, les auteurs, et vraiment c'est un moment qui est précieux, et je pense que tous les angevins et tous les participants, et pour discuter à chaque dédicace avec des habitués, Tout le monde est content que ça ait pu avoir lieu cette année et de pouvoir se retrouver et de trouver l'ambiance et un peu le climat. Ouais, la communauté, quoi, et le plaisir de pouvoir parler BD. Du coup, ouais, moi j'étais hyper content d'avoir le prix et de pouvoir montrer quelques planches cette année et de pouvoir avoir faire quelques signatures. Ouais, c'était un plaisir.
Et du coup, on a eu quelques bribes, mais pour la suite, des projets un peu précis dont tu peux nous parler ou pas ?
Signé, non. Cette année, j'ai bossé sur deux BD, mais qui ont été publiés en ligne, qui sont du reportage. Il y en a une, enfin, c'est plus un portrait d'un parcours d'un couple de deux Algériennes lesbiennes qui ont été contraintes de quitter Alger, qui ont demandé l'asile politique en France et qui ont eu un parcours compliqué parce qu'elles ont été traquées par leur famille. Enfin, c'est toute une histoire. Et du coup, c'est un récit biographique sur lequel j'ai bossé en début d'année. Là, je suis sur un reportage qu'il faut que je termine vendredi. Donc, je suis revenu à Angers et il va falloir que je m'y mette. Et j'y bossais encore dessus sur le traitement. C'est pour une revue qui s'appelle Les ASH dans le social, sur le traitement de l'addiction aux jeux d'argent et de hasard. Donc on est allé dans un centre de soins pour savoir comment les binômes référents, enfin les psychologues et les assistants sociaux abordaient un peu cette question de l'addiction aux jeux d'argent. Voilà, ça c'est un reportage en BD que je termine. J'ai d'autres idées qui sont pas forcément encore très abouties, mais j'aimerais bien, ouais, ce que je disais tout à l'heure, partir sur un projet en solo où je pourrais faire du reportage et rassembler la matière, faire les interviews moi-même et partir sur de l'édition papier, voilà, à terme. Mais pour l'instant, j'ai rien à déclarer, on va dire, dans l'immédiat.
Un dernier truc à ajouter éventuellement ?
Je reviendrai l'année prochaine avec beaucoup de plaisir, même en tant que visiteur. Et merci au festival d'Angers BD et à tous les bénévoles, à toute l'organisation. Et vraiment, c'est un travail incroyable que vous faites. Vous êtes super. C'est essentiel pour Angers d'avoir ce rendez-vous et cette rencontre. Et j'y reviendrai avec toujours énormément de plaisir.
Merci à toi.
Merci à toi.
Get your head out of your ass.
Up, extrait de la bande son du film Look Up, Denis Cosmic, que vous pouvez voir sur la plateforme qui fait Toudoum. C'était toujours la case de Seb. J'espère que vous passez toujours un bon moment en notre compagnie. On va parler un petit peu bande dessinée. Alors, j'ai vu qu'on avait pas mal avancé. Et je vais vous parler de deux albums rapidement. Le premier, ce sera le tome 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux qui trouve enfin sa conclusion dans ce deuxième tome. C'est un album de Cyril Liéron et Benoît Dahan, d'après Conan Doyle, hein, si vous ne savez pas d'où vient Sherlock Holmes. Et c'est publié aux éditions Ankama. Pourquoi c'est vachement bien? Alors, j'avais déjà parlé du tome 1 il y a un petit moment. Là, le tome 2, en fait, va conclure une enquête qui avait déjà commencé avec le tome 1. C'est un petit peu nul, ce que je dis. Et dans cette enquête, Watson et Holmes étaient sur la piste d'un mystérieux ticket de spectacle chinois. Un spectacle où des gens finissaient par disparaître, enlevés par on ne sait qui. Alors, Holmes va continuer cette enquête. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, quand on écrit une histoire, quand on écrit un livre, on va mettre un fil rouge. On va mettre quelque chose en filigrane, un vrai fil rouge qui va permettre de suivre le cours de l'histoire. Et bien là, le fil rouge est représenté de manière physique, directement dans la bande dessinée. Tout le long de l'histoire, vous allez pouvoir suivre ce petit fil qui va vous permettre de découvrir aussi l'évolution mentale de Holmes. Parce que Holmes, on sait à quel point il est fort, on sait à quel point il est intelligent, mais on ne sait pas vraiment comment il fonctionne. Et là, vous avez la possibilité, grâce au fabuleux dessin de l'ouvrage, d'aller découvrir comment fonctionne la tête de Holmes. De petit tiroir en petit tiroir, de décantation d'indices, tout est vraiment mis en image, mis en scène, pour qu'on puisse comprendre le cheminement déductible de Holmes. Alors, si c'était que ça, ce serait pas forcément une super BD. Donc, bah, si, ça fait quand même beaucoup de choses. Un fil rouge, une belle représentation de comment fonctionne Holmes. Mais l'ouvrage propose en plus des petites solutions, des petits trucs techniques qui vont en plus permettre de s'amuser en lisant. Par exemple, il faudra un moment plier une page pour avoir un autre dessin de vue ou voir quelque chose par transparence. Et c'est vraiment bien fait, bien pensé, pour que l'album soit non seulement ludique, avec ses petites astuces, mais passionnant à suivre, comme une vraie enquête de Holmes, et tout ça de manière très équilibrée. Il n'y a pas... Alors, c'est un livre d'enquête, donc forcément c'est l'enquête qui est primordiale, mais les petites astuces, ben ça va, vous n'allez pas être obligé de faire ça à toutes les pages. Donc ça ne devient pas quelque chose de trop tenace, de trop chiant à faire. C'est pas devenu un livre-jeu à cause de ces petites astuces. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment hyper agréable à lire. Donc moi, je vous invite à lire les deux tomes de Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est publié aux éditions Ankama. C'est de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Vous avez en plus un découpage qui, à mon avis, a dû donner quelques sueurs froides à l'éditeur et surtout à l'imprimeur, parce qu'il y a un gros découpage à l'intérieur en fait de l'album, mais qui rend vachement bien. Voilà, voilà pour cet ouvrage. Je vais vous faire un petit peu de manga également avec Le secret de Madoka. Alors c'est un manga qui est publié aux éditions Akata, pas dans la collection What the Fuck, dans la collection Small. Alors ceux qui connaissent pas Akata, ils aiment bien publier des choses qui sont soit engagées, soit un petit peu pas dérangeantes, mais qui aiment bien secouer un petit peu les gens. Alors il y a la collection What the Fuck qui est complètement dingue, dans laquelle tout peut arriver, mais il y a également des petites collections comme celle-ci qui font bien réfléchir, qui sont super intéressantes. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Madoka, qui est un petit garçon, mais il aime bien les robes que lui confectionne sa grande sœur. Sa grande sœur a une passion un petit peu dingue et aime bien déguiser Madoka. Et puis, il adore les peluches. Et puis, il se rend vite compte que présenter ça à tous ses camarades, un petit garçon qui vient en robe à l'école, ça se fait pas beaucoup. Et puis, à l'école, il va déménager. Et puis, dans sa nouvelle classe, il va rencontrer un autre enfant, un autre petit garçon, qui est plutôt agressif vis-à-vis de lui. Et il ne comprend pas pourquoi. Et en fait, on va se rendre compte très très rapidement que les deux enfants déjà vont se télescoper et découvrir le secret l'un de l'autre, à savoir que effectivement Madoka est un garçon qui souvent est habillé en fille et que l'autre petit garçon est une fille qui a tout d'un garçon manqué et qui fait tout pour qu'on reste qu'on croit que c'est un garçon parce que voilà, ils s'en fichent et puis son comportement est comme ça. Et du coup ça c'est un manga qui est vraiment très intéressant parce qu'il parle effectivement de cette notion de... C'est même pas une question de genre, c'est une question d'apparence. C'est pas parce que t'es un garçon que t'as pas le droit de t'habiller avec des robes, c'est pas parce que t'es une fille que t'as pas le droit de t'habiller avec un pantalon et puis avoir une coupe courte. C'est pas parce que t'es un garçon que t'as pas le droit d'aimer le rose. Et c'est super intéressant de faire lire à vos enfants ce genre de bouquin parce qu'effectivement, non seulement l'histoire, elle est agréable, non seulement les thématiques sont un peu plus complexes que Nature One Piece, parce que j'adore One Piece, mais ça apporte des questions beaucoup plus existentielles que simplement est-ce qu'on va pouvoir taper plus fort que le méchant. Et c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des ouvrages comme ça, comme Le Secret de Madoka, et j'avoue que c'était une pure surprise. Alors j'avoue que la couverture ne m'avait pas forcément tenté, puisqu'on était sur une couverture un peu pastel, des traits qui sont... ça fait très shoujo hein, dans l'âme. Donc c'est un dessin qui est un peu éthéré, qui est souvent catalogué comme un dessin de fille. Mais ça marche très très bien. Alors si vous avez lu des choses comme Cardcaptor Sakura par exemple, c'est un manga qui peut vous attirer, puisqu'il y a vraiment quelque chose de ça dans les costumes par exemple de Madoka. Mais c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment hyper agréable. C'est un bel ouvrage. J'avoue que c'était une belle surprise. Donc allez-y avec grand plaisir. Je redonne les références. C'est Le Secret de Madoka de Deme Kingyobachi. Je suis sûr que j'ai écorché son nom, j'en suis encore désolé à chaque fois. Et il s'est publié aux éditions Akata. Et vraiment, c'est presque un coup de cœur. Je veux pas dire... mais il y avait plein de bouquins comme ça qui ont été très très bons récemment. Et j'avoue que... Ouais, c'était très très bien. Dernier bouquin de la soirée, puis après on laissera d'autres personnes vous régaler les oreilles, avec Jonah de Chris Samney et Laura Samney, de Matthew Wilson et Crank, publié aux éditions 404. Et là on est sur un autre coup de cœur, encore un autre chose. On est sur une histoire post-apocalyptique. Il y a d'immenses monstres qui ont commencé à apparaître et qui ont forcé l'humanité à se retrancher parce que effectivement ces monstres-là ils sont très très forts, très très violents. Et on suit l'histoire d'une jeune fille qui va chercher sa sœur. Et sa sœur, elle l'a vue pour la dernière fois lorsque les monstres sont apparus, enfin lorsque elle voyait les monstres pour la première fois. Et puis, elle s'est fixée cette quête, en fait, d'essayer de retrouver sa petite sœur, qui, elle le sait, n'a pas été mangée par les monstres. Elle a un grand espoir et il y a des petits indices qui lui disent que sa sœur est toujours vivante. Et lorsqu'elle va la retrouver, elle va retrouver une espèce de petite créature un peu mutique. Je parle de sa sœur, qui a réussi à survivre grâce à des capacités physiques qui sont quand même assez hors normes. Et notre héroïne va quand même halluciner quand elle va découvrir que sa sœur est capable de mettre des, je suis désolé pour le terme, des patates de forain aux monstres qui font la taille d'un gratte-ciel. Ces monstres se retrouvent couchés, abîmés, très très mal, quand cette jeune fille arrive à lui mettre des coups, et c'est hyper impressionnant. C'est vraiment ultra bien. Je ne sais pas si je vous ai donné envie en le résumant, parce que j'ai toujours du mal à faire des beaux résumés, mais c'est super beau, c'est graphiquement c'est assez dingue. Il y a un côté un peu, il y a un aspect un peu vieux papier qui marche très très bien. On a des monstres qui vont ressembler aux anges d'Evangelion, mais plus aux Evangelion eux-mêmes pour ceux qui voient la référence. Des créatures gigantesques qui font extrêmement peur, et les personnages sont super agréables à suivre. Alors, il y a d'autres d'autres personnages hein, que l'héroïne et puis sa sœur. Mais vraiment, c'est épique. Il y a beaucoup de choses, il y a de bons sentiments, il y a vraiment plein de choses. Et pour ceux qui connaissent déjà Chris Samnee, on savait déjà où on s'embarquait en lisant ça. Et on n'est pas déçu, puisqu'effectivement, c'est vraiment fabuleux. Et Chris Samnee au dessin, Chris Samnee au scénario, ouais, ça envoie. Matthew Wilson, au niveau des couleurs, il a su très bien s'adapter et ça marche très très bien. Il y a les couleurs des orangés, des rosés qui marchent très très bien et c'est très efficace. Non, vraiment un grand coup de cœur pour ce joli album aux éditions 404, dont je vais attendre la suite avec une grande impatience. Il s'agissait de Jonah de Chris Samnee et Laura Samnee de Matthew Wilson et de Crank. C'est publié aux éditions 404. Et ben voilà. That's all, folks. Et oui, vous l'avez entendu, c'est pour qui signale la fin de l'émission. Je vais passer bientôt le relais à des gens qui ont des gros bazars ou qui mettent du gros bazar. Ouais, ben voilà. Quand on... Un jour, on fera une émission ensemble, si vous voulez. Ça pourrait être très rigolo. On parlera de...
C'est parti.
Non, maintenant, la maison. voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve demain soir de 22h-23h pour les voix du scénarium. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de la case de Seb. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
Ah, oui.